Bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Comment enchanter nos peurs et nous mettre dans le collectif, proches les uns des autres? Comment enchanter nos idées et nos corps en les transformant en images, danses et paysages? L'artiste brésilienne Lia Rodrigues, actuellement en France à l'occasion du Festival d'automne, et ce soir notre invitée à l'occasion de son nouveau spectacle Encantado. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Caetano Veloso.
Um índio descerá de uma estrela colorida brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio.
Vous aviez 10 ans, Lia Rodrigues, quand la dictature a commencé dans votre pays, au Brésil. Et pourtant, je pense que vous en avez quelques souvenirs. Nous venons d'entendre Caetano Veloso, mais avec Gilberto Gil et Chico Buarque, par exemple, mais aussi dans le domaine du théâtre. Ces artistes se sont engagés tout de suite contre la dictature.
Oui, j'étais petite, mais bien sûr, j'ai été... éveillée par ces questions dans mon quotidien, parce qu'on allait à l'école, j'avais parfois des professeurs qui disparaissaient tout d'un coup et on ne comprenait pas pourquoi. Et après, bon, ça c'était, j'avais 14 ans. Et après, je suis entrée à l'université de São Paulo pour étudier histoire. J'avais 17 ans. Et c'était en pleine dictature aussi, 1974. C'était très, un moment très dur de la dictature. Et aussi là-bas, j'ai vécu tous les mouvements des étudiants et tout.
Vous êtes engagée en tant que danseuse extrêmement jeune. Et malgré la dictature, vous avez pu travailler dans un continuum de collectifs de danse qui vous a permis à la fois de devenir danseuse et d'apprendre la danse, mais aussi de vous éveiller aux questions anticoloniales, c'est-à-dire à la revendication de l'indianité dans votre propre pays.
Je pense que j'ai très tôt m'en aperçu de mes privilèges en tant qu'une femme blanche, en tant que classe moyenne, dans un pays aussi raciste et aussi inégal qu'est le Brésil. Alors ça, je pense que c'était un moteur très fort dans ma vie.
Très jeune, vous vous en êtes rendu compte?
C'était d'abord parce que j'étais à l'université d'histoire, j'ai vu ces artistes tous m'ont influencé, et aussi mon père qui était journaliste et qui m'amenait quand j'avais 10 ans, moi et mes sœurs et frères, pour voir qu'on était privilégiés. Alors il nous amenait dans des favelas pour qu'on puisse voir que d'autres enfants n'avaient pas tout ce qu'on avait.
Pour parvenir à votre don d'artiste, la chorégraphie et la danse, croisée à l'anthropologie, on y reviendra, notamment sur le dernier spectacle Encantado, eh bien, il vous a fallu pas mal de temps. Vous êtes partie en France, parce que vous pensiez que c'était en France qu'existaient les plus grandes des chorégraphes, et là, vous avez rencontré qui ? Maggie Marin, je vous propose de l'écouter. Elle va parler de son travail de chorégraphe. C'est une archive INA du 22 mars 2017.
Travailler sur des sensations corporelles, quand j'étais petite, c'était important. Et même sur des choses contraignantes, parce que je faisais de la danse classique, j'arrivais à trouver des sensations très très fortes. De la vie, en fait, du sang qui circule... Des choses comme ça, je pense, enfin je le dis maintenant. Je pense pas que je pensais tout ça quand j'avais 8 ans, mais en tout cas, la sensation de vivre autrement quand le corps dansait que quand le corps était immobile ou à l'arrêt ou dans le quotidien. J'ai voulu continuer. J'ai fait des études au conservatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Et c'était vraiment des moments très, très heureux pour moi.
Nous venons d'entendre la voix de Maggie Marin qui continue à travailler à la fois de manière politique au sens le plus noble du terme et au sens artistique en déconstruisant des rapports trop finalement obligatoires et quotidiens avec notre propre corps. Que vous a-t-elle appris, Lia Rodriguez ?
Bon, avec Maggie, j'ai appris tout, je pense. Parce que j'étais très jeune quand je suis venue en France. J'ai appris avec elle la rigueur, l'éthique, comment travailler politiquement, mais aussi penser à l'esthétique. Et alors, je pense que toujours maintenant, elle est comme un phare pour moi, parce que toutes ces actions m'inspirent beaucoup.
Aujourd'hui, il y a un panorama artistique et esthétique européen d'une danse contemporaine qui se porte extrêmement bien. Nous avons eu très récemment la nouvelle que la compagnie de Pina Bausch allait avoir comme successeur Boris Sharmatz. Il a fallu attendre beaucoup d'années après la disparition de Pina Bausch. Mais je vous propose d'écouter la voix de Pina Bausch, car quand on voit vos spectacles, Lia Rodriguez, on pense que c'est la vie des danseurs et des danseuses qui se trouvent mises en jeu sur le plateau du théâtre. Ce n'est pas simplement un spectacle artistique et esthétique. Non, c'est un acte vivant. Je vous propose d'écouter la voix de Pina Bausch à propos de son travail de chorégraphe. C'est une archive INA du 14 mai 1977.
For me, it's very difficult to explain. Because a part of my work is also that I think that the
il m'est difficile d'expliquer parce qu'une partie de mon travail est précisément de penser que les images sur scène sont très ouvertes pour que tout le monde soit libre de croire en ce qu'il perçoit.
tell you what I feel, or it's already like I would ask you to see what I want you to see.
Si je vous disais ce que je ressens, ce serait déjà vous demander de voir ce que je veux que vous y voyez.
The dances or whatsoever, and I think each one should trust their own feeling and what comes to your heart.
Il y a ce qu'il y a, des images, des danseurs. À chacun de croire dans ses propres perceptions, ce qui vous vient à l'esprit, au cœur.
I don't want to tell you what to think or what to feel.
Je ne veux pas vous dire quoi penser, quoi ressentir. Pour moi, c'est très important. Vous faites partie de la pièce, d'une certaine manière.
Alors, c'est vrai que Pina Bausch avait inventé la place des spectatrices et des spectateurs à chacun de ces spectacles, et on ne pouvait qu'en sortir complètement illuminé par ses propres visions. Mmh. Et quand on voit votre travail, Lia Rodriguez, grâce au Festival d'automne en ce moment même à Paris, on se dit que vous êtes en filiation directe avec cette définition de la danse comme tremblement de l'être, et que la danse est peut-être pour vous, comme pour Pina Bausch, un paysage mental ou une succession de visions.
Oui, j'étais en train de réfléchir quand j'ai écouté la voix de Pina Bausch, qui est aussi très important pour nous tous qui faisons de la danse. Et cette, j'ai pensé à la liberté qui nous donne une œuvre d'art. Parce qu'on est complètement libre pour penser ce qu'on veut. Même si moi, en tant qu'auteur, chorégraphe, je décide des choses, mais c'est au spectateur de créer ses propres rêves. En voyant la pièce. Et ça, je pense que c'est d'une grande liberté.
Ça veut dire que vous pensez au spectateur quand vous créez un spectacle, à la place du spectateur à l'intérieur de l'écriture.
Je pense que c'est plus libre que ça, peut-être. C'est, je vais bien savoir qu'est-ce que chacun des spectateurs va voir dans le travail, parce que je pense que ça complémente le travail, parce qu'on fait le travail pour être vu. Pour être apprécié ou non apprécié, ça fait rien si on aime ou on n'aime pas. Le plus important, c'est être là, dépenser cette heure dans ces boîtes noires, vous laisser aller.
Vous laissez aller, mais pour pouvoir laisser aller, il y a un travail en amont extrêmement important qui vient du côté des danseurs et de votre propre troupe. Et il y a un travail aussi presque de vision, enfin d'incantation. Le dernier spectacle s'intitule Encantado, et on voit bien que il y a une part de rêve, de mystère que vous demandez à chacun des personnes qui constituent votre troupe, Lia Rodriguez.
Oui, le travail, c'est quand on voit Encantado, il est complètement écrit. Il y a beaucoup de numéros, c'est complètement, je peux le faire, c'est la même chose chaque soir. Et ça, je pense comme une embroderie, comme si on était en train de tisser quelque chose ensemble. Mais pour bien tisser, avec beaucoup d'aimants, il faut bien savoir où on met l'aiguille pour ne pas nous piquer. Et je pense au travail comme ça. Et c'était 9 mois de création quand même.
Je vous propose d'écouter une troisième chorégraphe européenne d'envergure, et on pense aussi à elle quand on voit vos spectacles, Lia Rodriguez, c'est Anna Teresa de Kerzmacher. Elle frôle comme vous la spiritualité, mais avec d'autres sources beaucoup plus européennes que les vôtres, puisque vous, c'est le Brésil qui vous inspire. Elle va parler de l'incarnation en danse. C'est une archive INA du 27 mai 2016, Anna Teresa de Kerzmacher.
Avec le temps, tout devient différentes manifestations de la même chose, que ce soit du texte, la musique, les arts plastiques. Toutes ces disciplines ont leurs articulations spécifiques. C'est tout à propos des mêmes questions. C'est de l'énergie matérialisée. C'est organiser une matière avec le corps, avec cet instrument qui est le plus écologique, le plus naturel, le plus proche, le plus individuel, le plus universel, et organiser une énergie dans le temps et dans l'espace. Et questionner qu'est-ce qu'il y a de tellement exclusivement humain là-dedans? Comment je peux incarner des idées.
Comment incarner des idées? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de la danse de Ana Teresa de Kersmaeker, Lia Rodriguez?
Je pense que puisqu'on vient des réalités tellement différentes, on ne peut pas être dans les mêmes pensées, parce que ce que j'ai vu chez moi, c'est tellement différent de ce que les artistes en Europe vivent. Je suis très immersée dans une autre réalité. Mon travail est un dialogue concret avec une réalité assez dure qui me met en contact avec les concrets tous les temps.
Alors, pouvez-vous raconter, Lia Rodriguez, quel fut votre chemin artistique d'ouverture? Parce que maintenant, et ce depuis beaucoup d'années, je crois depuis 2004, vous vivez dans une favela toute proche de Rio, et vous y avez installé un centre chorégraphique, un centre artistique, une école, dans tous les sens du terme. Mais auparavant, vous êtes retourné, donc vous avez quitté la France, vous êtes retourné à Rio de Janeiro, sans connaître personne. Et là, ce n'est pas tellement la danse que vous avez choisie. Mmh. C'est plutôt le militantisme féministe. Donc ces successions d'engagements ont-ils créé un appareil esthétique sensible à l'intérieur de vous?
Oui, je pense qu'en tant que femme, en tant qu'enfant femme, j'ai dû me battre comme nous tous, les femmes, doivent se battre. Alors je pense que j'ai appris très tôt que je devais me battre dans tous les domaines. Alors j'essayais de m'engager sans avoir même l'appareil, encore quand j'étais plus jeune, l'appareil politique pour devenir une féministe. Je ne savais pas que j'étais féministe, mais je me battais contre les mondes masculins. C'était très fort et c'est encore. Et quand je suis revenue de France, j'ai eu 3 enfants. Et pour moi, la maternité m'a donné un sens de comment est-ce qu'on... C'est le premier acte écologique, je pense. Et alors, j'étais très engagée, comment on peut donner le lait, qui c'est la première chose pour un enfant. Alors, je me suis attachée à un groupe de femmes qui militaient pour l'allaitement. Et c'était très important. Et j'étais éloignée de la danse. Je ne pensais même pas que j'allais revenir un jour.
Oui, mais ce n'est peut-être pas un hasard si justement ce militantisme pour l'allaitement maternel, cette importance du corps nourricier, a peut-être été déterminante pour pouvoir comprendre ce que ça voulait dire être un corps de femme sous la dictature au Brésil.
Ah oui, sans doute. Et aussi cette militance m'a appris une chose, parce que je pense que les femmes doivent être multiples. J'ai toujours senti ça. Alors, je garde...
Multiple, c'est-à-dire plusieurs en même temps.
Plusieurs choses en même temps, parce que j'avais 3 enfants petits, je dirigeais un festival, j'avais ma compagnie, tout dans un petit appartement, et je devais faire tout. Et j'ai appris à fonctionner comme ça. Je dois faire tout. Ma compagnie, elle a une très petite structure, et je fais tout, j'ai appris à tout faire. Et quand on a des enfants, on est là, on écrit un test, tout d'un coup, quelqu'un, tu dois interrompre tout et aller là-bas. Alors, j'ai appris ça. Alors, j'ai une photo, moi, avec mon bébé, après l'autre, juste après, et l'autre. Et quand je suis trop fatiguée, même maintenant, je regarde ces photos et j'ai dit non, non, c'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Alors, allez-y, on y va.
Et donc, à partir de quel moment, en tant que mère de 3 enfants, vous avez décidé non seulement de créer une compagnie, mais de vous installer donc dans cette favela entre l'aéroport de Rio et la ville de Rio?
Bon, j'ai commencé à connaître des gens qui dansaient à Rio. Je me suis mis avec eux. J'ai créé d'abord une chorégraphie avec un ami. Tout petit pas, parce que j'avais beaucoup de choses à faire avec mes enfants. J'ai passé 6 ans de ma vie en train d'allaiter. J'allaitais 2 ans chacun. Alors, je devais porter toutes ces choses-là ensemble. Et petit à petit, j'ai commencé à faire le travail, mais dans un très petit cadre. C'était moi et des autres femmes, et on a commencé la compagnie comme ça. Et juste après, j'ai décidé de créer un festival, parce qu'il n'y avait rien. Mais c'était tout fait à la maison. C'est très artisanal. Je ne sais pas si on dit comme ça en français, artisanal ou artisanal, mais c'est tout fait avec la main. Je ne sépare pas les choses que j'ai fait à la maison des choses que j'ai fait dans les champs des arts. Ce n'est pas différent. Nettoyer, repasser, m'en occuper des enfants, c'est la même chose que faire la chorégraphie. Je ne me mets pas dans un pédestal en tant qu'artiste. L'artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être dans le concret.
Dans le concret, peut-être, mais aussi dans la connaissance des milieux qui ne sont pas les vôtres. C'est pour ça, on parlait tout à l'heure d'anthropologie. Non seulement vous créez un art chorégraphique nouveau, Lia Rodriguez, mais vous travaillez avec des gens qui n'ont jamais eu la possibilité de savoir danser ou de peut-être imaginer qu'ils allaient danser pour des raisons professionnelles. Tout le monde danse, peut-être plus quand on est enfant, adolescent, mais beaucoup de gens dansent toute leur vie au Brésil. Mmh. Et vous, vous avez décidé de faire de votre art chorégraphique un art psychique, un art de tremblement de l'être. Et c'est peut-être au moment où vous avez décidé de travailler dans la favela. Pourquoi et comment ?
Bon, je dirigeais à ce moment un festival et je voyais les publics de ces festivals et tous ceux qui étaient autour de l'art contemporain au Brésil, très élitistes. Et le Brésil, c'est pas ça. Rio, c'est pas ça. Ces groupes de gens qui ont lu les mêmes livres, qui ont vu les mêmes pièces, ça ne m'intéressait pas. Il faut, parce que je suis d'abord une citoyenne, il faut que je fasse quelque chose, j'ai une responsabilité. À cause de mes privilèges, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Alors, mon dramaturgiste, qui s'appelle Sylvia Sauter, m'a introduit à cette association Redes da Maré, qui est basée sur cette favela et qui est là depuis beaucoup d'années. Et elle est menée par des gens qui ont né dans la favela, que c'est très différent de quelqu'un qui vient de dehors. Et je suis arrivée là-bas sans rien savoir, je n'avais pas un projet, je voulais apprendre et développer quelque chose ensemble.
Et comment avez-vous été acceptée et avez-vous été acceptée?
Je pense que oui, parce que je suis arrivée comme ça, je vais apprendre avec vous. Parce qu'on pense normalement à une favela comme un endroit de la manque, il n'y a rien, il y a la violence, c'est horrible, c'est pas vrai. C'est aussi ça, mais c'est d'abord des gens très, très, ils créent, il y a des artistes, il y a une façon de vivre qui on peut penser à c'est n'importe quoi. Non, il y a une organisation incroyable, c'est des gens qui disent oui à la vie, même si la vie dit non à eux tous les jours. Alors c'est ça que j'étais là pour apprendre.
Qu'avez-vous appris, Lia Rodriguez?
C'est ça, comment on doit continuer, comment on doit, même dans des situations chaotiques comme c'était le cas de la pandémie, mais là, ils savent, ils ont savoir-faire qui fait qu'on peut surmonter tout. Mais surtout, je pense que c'est dans les collectifs. Je ne suis rien sans mes partenaires et d'abord sans Redes da Maré.
Que veut dire danser pour vous? C'est regarder les autres danser et essayer de s'inspirer de ce que vous voyez, ou c'est créer des visions à partir de choses qui existent au Brésil, y compris dans la favela bien sûr, comme la transe, l'hypnose, le candomblé, enfin des tas de pratiques qui peuvent provoquer l'élan de la danse. Collectivement.
Oui, pour moi, la danse maintenant, c'est très différent de ce que je pensais quand j'étais petite. Je pensais que c'était faire des mouvements, mais pour moi, la danse, c'est une forme de penser le monde et de penser le monde dans les collectifs. Ça veut dire, quand j'appelle les artistes de la danse pour venir travailler avec moi, je vais connaître leur monde. Qu'est-ce qu'ils pensent? Comment ils veulent faire des mouvements? Ce n'est pas moi de faire une danse, mais c'est de créer une manière que les corps puissent s'exprimer.
Comment choisissez-vous vos artistes de la danse? Parce que comme Anna Teresa de Kersmacher ou comme tout à l'heure Pina Bausch, dont on entendait les propos, vous caractérisez comme une chorégraphe qui maintenant possédait une troupe qui est constituée de corps très différents, d'âges très différents, mmh. et d'apparences très différentes. Comme si, quand on voit vos spectacles, comme si c'était la diversité du monde qu'on voyait corporellement sur un plateau.
Ces mots que tu viens de dire, diversité, pour moi, c'est la clé de ce que je crois. On doit ouvrir pour la diversité des voix, des corps, des manières d'être au monde. Ça, c'est le plus beau du monde, qu'on est différent. Je pense que c'est ça. Et alors, pour choisir mes danseurs, j'ai fait des auditions. Là, pendant la crise sanitaire, j'ai eu 200 inscriptions pour venir, parce qu'il n'y a pas d'emploi non plus au Brésil pour les artistes. Mais je les choisis par leur envie de dire quelque chose. Alors, on parle beaucoup avant que je les choisisse.
Donc, c'est par la parole que vous les choisissez, et non pas par leur faculté de danser.
Oui, c'est pour leur parole, leur brille dans le regard. Comment on dit ça
quand la
ça...
brillance, la oui. lumière dans leurs yeux.
C'est ça.
Et à partir de cette lumière dans les yeux, que se passe-t-il? Est-ce que vous demandez à chacune et chacun d'entre eux de vous restituer par des paroles leur vision du monde? Ou est-ce que vous vous inspirez uniquement de leur apparence corporelle en leur demandant d'esquisser des mouvements dans l'espace?
D'abord, avant qu'on se rencontre, j'ai un énorme travail. Un an et demi, 2 ans de travail, de recherche par les livres, parce que les livres, c'est ma passion, la littérature. Alors, je me plonge dans des livres pour sortir avec quelques idées.
Quel type de livres?
Fiction, roman, d'anthropologie, tout ce que je lis. Je lis beaucoup en français, parce que j'aime pour m'entraîner, même si mon français parfois fait comme ça, j'essaye parce que j'aime lire, c'est un monde pour moi, et c'est ce monde qui m'inspire. Alors parfois je lis un livre et je note tous les mots qui m'inspirent. Et alors, à partir de ces mots, j'emmène pour les danseurs, qu'est-ce qui t'inspire ces mots-là? Alors, c'est à partir des mots que j'ai construit mon travail.
Ce mot d'encantado, vous le traduiriez comment dans la langue française que vous parlez si bien, Lia Rodriguez?
C'est pas enchanté, parce que, bon, mais c'est un peu enchanté, parce que encantado, c'est aussi tous les, j'ai fait une recherche dans les dictionnaires, et c'est comme au Brésil, enchanté, ça veut dire, enchanté de faire votre connaissance. Mais enchanté, c'est aussi une chose qui nous émerveille. Et au Brésil, il y a encore une troisième possibilité, qui c'est, qui ça veut dire à partir de ces êtres qui sont de la cosmogonie afro-méridien, qui vivent entre les ciels et la terre et qui donnent, qui guérissent, qui nous surveillent, qui nous ouvrent notre pensée.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Lia Rodriguez, Taxano Bano et Cathy Makouani, Na. Na, na, no.
Na 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 Então significa, primeiro, oh mam. Assim, se, para mim, significa oh mam.
À mon avis, être Yanomami, il y a beaucoup à voir avec Omama, notre créateur.
Então, o primeiro Yanomami que surgiu na Terra se chama de Yanomami.
Então, le premier Yanomami qui a vécu sur Terre s'appelait Omama. Et nous, nous appelons le peuple Yanomami.
Então, ele surgiu, escolheu, o nome é povo Yanomami.
C'est Omama qui nous a nommés.
Le peuple de la forêt.
Nous sommes les peuples de la forêt.
La terre.
De la terre.
Et qui usa sem luz, sem essa.
Nous avons un mode de vie différent du vôtre. Nous vivons message, sans électricité, sans des messages instantanés.
Então, nós somos assim. Nós somos povo nômade.
Nous avons une culture différente. Nous sommes un peuple nomade aussi.
Que nós permanecemos onde nós nascemos, nativo do povo.
Mas nós restons toujours dans ce grand territoire où nous sommes nés, d'où nous sommes originaires.
Bem, aconteceu, porque o primeiro que quis sofrer. Eu sofri primeiro.
Tout d'abord, j'ai dû souffrir et ressentir cette douleur.
Aconteceu lá onde eu me.
Et de voir les miens attraper plein de maladies dans nos communautés. Nous avons eu des épidémies très graves. J'ai perdu des amis, des copains avec qui j'avais grandi. Je peux dire que je suis un survivant de mon peuple Yanomami et de la communauté maracana.
De quand je crescis. Eu já vinha sabendo.
Et en grandissant, j'ai compris ça.
Vinha pensando que eu
j'ai commencé à réfléchir.
A defender o meu povo.
Et je me suis dit, quand je serai grand, je vais lutter pour défendre mon peuple.
Comme aconteceu essa
afin
doença
de faire en sorte qu'on ne souffre plus et qu'on empêche les maladies.
Nous venons d'entendre la voix de Davy Kopenawa, qui est le porte-parole des Amérindiens Yanomami. Et on sait, Lia Rodriguez, que depuis très longtemps, depuis que vous avez fondé votre compagnie et que vous êtes installée dans cette favela tout près de Rio, vous êtes intéressée, non seulement comme artiste, mais aussi comme anthropologue, je dirais, de la pensée indienne. Et la plupart de vos spectacles sont inspirés justement par la cosmologie, par la parole, par les prophéties. Je me souviens du premier spectacle, je crois, qu'on avait pu découvrir en France de vous, qui s'appelait Pororoca. Mm-hmm. Et je voulais savoir aujourd'hui, notamment avec le nouveau spectacle Encantado, si cette pensée indienne continuait à nourrir votre œuvre. Même si votre travail est extrêmement contemporain et n'est pas du tout, entre guillemets, folklorique ou indianiste.
Bon, j'étais très émue d'écouter la voix, d'abord la musique qu'on a écoutée, qui c'est du peuple Unikuin, qui c'est un peuple qui c'est un peuple indigène, qui c'est proche de la frontière avec Pérou, et qui m'a beaucoup nourrie. Cette même musique, je peux même la danser.
Vous l'avez dansée, oui. En écoutant la musique.
Pour Encantado, elle n'est pas sur la pièce, mais elle était derrière tous les temps. Et après, la voix de Davy Kopenawa, parce qu'il m'a beaucoup inspirée avec son livre, avec l'anthropologue français Bruce Albert. Et que j'ai lu d'abord, j'ai découvert d'abord en français. Je l'ai lu en français dans l'édition Terre des Hommes.
Terre humaine, oui.
Terre humaine. Et après, elle n'avait pas encore été traduite. Et j'ai dû attendre longtemps pour qu'il puisse être traduit en portugais. Mais je l'ai lu d'abord en français. Et ça m'a donné, parce qu'il parle des livres comme si les livres étaient les peaux. Et ça, c'était tellement beau. Et tous ces témoins terribles qui témoignent ces génocides qu'on vit depuis que le Brésil a été envahi par les Portugais. Ils continuent encore à arriver là-bas. Et alors j'étais émue parce qu'il est venu voir mon spectacle à São Paulo pour que le ciel ne tombe pas. Il est venu voir deux fois. il a dit à moi, « Mais comment est-ce que tu as pu faire ça? Tu n'as pas été là-bas. » Et moi, je rêvais de ton spectacle. Alors, il y avait une espèce de rencontre tellement forte. Et alors, il est venu deux fois parce qu'il voulait comprendre comment c'est possible qu'on a pu toucher quelque part ce qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas comment, mais peut-être à travers les images, à travers les articles sur leur vie, à travers ces livres-là, on a pu quand même nous rencontrer dans un autre univers.
Votre travail, Lia Rodriguez, procède-t-il de la vision? Avez-vous des visions?
Je travaille beaucoup chez moi, avec les yeux fermés, immobiles, en train de penser. Alors, je vois tout ce qui se passe dans ma tête, comme un voyage psychédélique. Et après, j'organise tout dans ma tête. Mais bien sûr, quand j'arrive à la répétition, ça ne marche pas du tout. Je dois faire la transition. Mais j'ai beaucoup de travail, toute seule, immobile.
Quelle vision avez-vous de l'univers?
Une vision complètement colorée, comme le début d'Encantado. Je pense qu'il y a des êtres et des choses, on est très liés avec les êtres humains et non humains. Tout cette mycélium qui sont les fungi qui donnent vie à des arbres, à nos corps et tout ça, on est tous liés. C'est tellement beau ce que les peuples indigènes nous font voir.
Votre nouveau spectacle, Lia Rodriguez, Encantado, commence dans le silence et dans l'obscurité. Et ce silence et cette obscurité vont petit à petit se transformer en une musique hypnotique, obsessionnelle, addictive. Je vous propose d'écouter un extrait de votre musique de votre dernier spectacle, Trila. Dans le petit programme qu'on nous donne à nous, spectateurs, quand on va voir et découvrir votre spectacle, Lia Rodriguez, il y a un petit papier. Dans ce petit papier, vous avez écrit que les Encantados sont des entités qui sont animées par des forces inconnues qui se déplacent entre le ciel et la terre, mais qui peuvent se trouver aussi bien dans les eaux salées que sur les dunes, que dans des grottes, que dans des lieux sacrés aussi. Et on entend finalement ces Encantados dans cette musique qui va commencer au premier tiers de votre spectacle et qui ne va jamais, jamais s'arrêter. Encantado, ça a à voir aussi donc avec la magie, l'incantation, comme on dirait nous en français, mais ça a peut-être à voir aussi avec la tragédie de votre pays, le Brésil, et de la pandémie du Covid-19, non?
Bon, ça, bien sûr, nous a traversés pour faire cette création. Le Brésil, il vit un des moments les plus terribles de notre histoire, les plus sombres, avec un président génocidaire, un président ultra-fasciste, qui a un projet de destruction, pas seulement de la nature, mais des peuples indigènes, de tous ceux qui sont pauvres, de l'économie, du social, des artistes qui sont persécutés. Mais aussi, il faut dire que le Brésil, maintenant, il est déjà au-dessous du niveau de la pauvreté. Plusieurs familles n'ont pas à manger. Alors ça nous traverse d'une manière terrible. Je ne sais pas, c'est un moment qui fait tout le monde souffrir beaucoup, beaucoup. Et alors Encantado est né dans cette terrible histoire, mais par contre, il est né dans les centres d'art de Marais, cet espace que j'ai créé ensemble avec Redes da Maré dans la favela. Et là, pendant qu'on a fait Encantado, il y avait une énorme campagne qui dit Maré dit non au coronavirus et qui elle distribue des aliments pour plus de 17 000 familles. Alors, au même temps qu'on créait un spectacle, on était vraiment immergé dans cette campagne. Et ça, c'est très beau.
Il y a plus de 600 000 morts au Brésil à cause de la pandémie. Il y a eu des forces de résistance et notamment une commission parlementaire qui a accusé le président Bolsonaro d'être un génocidaire et qui veut le traduire devant un tribunal. Est-ce que cette plainte risque d'aboutir, selon vous, Lia Rodrigues?
Vous savez, au Brésil, on ne sait jamais. Mais c'était très important que ça arrive. Je ne sais pas si ça va aboutir, mais c'était très important. Mais il y a des mouvements incroyables au Brésil, des mouvements de la société civile qui s'organisent, et qui, comme les mouvements sans terre, comme les mouvements des peuples indigènes, qui, dont ça vient cette musique, ça vient de cette manifestation en août 2021, contre le manque de démarcation de terres ancestrales. Alors c'est de là-bas que j'ai fait sortir ces bouts de musique que j'ai mis en boucle.
Je vous propose d'écouter un reportage sur la COP 40 sur les peuples indigènes au Brésil, un papier de Julie Pietri qui date du 7 novembre dernier.
C'est un prix que les États n'aiment pas recevoir. Le Fossil of the Week récompense le mauvais élève des négociations. Et cette semaine, victoire du Brésil pour sa manière horrible et inacceptable, dit le réseau Action Climat, de traiter ces peuples indigènes, des peuples qui se sont exprimés dans les rues de Glasgow ces deux derniers jours. À la tribune, cette jeune militante dénonce la politique génocidaire du pouvoir brésilien. Le peuple Munduruku doit boire de l'eau contaminée au mercure parce que des grandes entreprises polluent nos rivières. Nous défendons notre territoire par notre vie. Les peuples indigènes meurent. Durant cette COP, le fossé entre ceux qui semblent encore épargnés par les pollutions et le changement climatique et ceux qui les subissent de plein fouet et restent pourtant peu écoutés saute aux yeux. La militante brésilienne Alessandra Corap se définit comme une guerrière de l'Amazonie. Il y a peu de temps, tous les gouverneurs de l'Amazonie brésilienne ont signé un accord, décidé d'une politique, mais sans les peuples indigènes et leur savoir ancestral. Sous Jair Bolsonaro, l'Amazonie a été amputée de 10 000 km² de forêts par an.
Nous venons d'entendre ce terrible constat. Lia Rodrigues, vous le vivez au quotidien. En ce moment même, vous êtes en France, vous allez repartir dans votre propre pays et aller continuer à travailler dans cette favela. Êtes-vous aussi une guerrière artistique? Est-ce que vous vous ressentez comme telle?
Quand j'écoute ces voix et quand je vois ces luttes, je me sens que je ne suis pas à l'auteur de ces gens qui font cette lutte, qui mènent cette lutte, pas seulement pour nous au Brésil, mais pour vous ici en Europe. On est liés. Quand on pense que l'écologie, le climat, l'environnement, c'est lié à l'inégalité. 1% des riches il dépense beaucoup plus de carbone que tous les restes. Alors ça, il faut être éveillé par ça.
Et on nous venons d'apprendre aujourd'hui par un rapport international, aujourd'hui même, que la pandémie avait augmenté encore les inégalités entre les gens sur le plan économique et financier et que les riches étaient devenus de plus en plus riches.
Alors, on a des responsabilités. Nous tous, on est liés. Il n'y a pas de fermer les murs pour que l'Europe soit bien. Il faut penser ailleurs. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Je pense qu'il n'y a pas de sortie, mais quand même, il faut essayer. Mais sans les mains, qu'on donne les mains, qu'on écoute les savoirs de ces peuples ancêtres qui nous disent ça depuis des années, des siècles. Et on ne pouvait pas les entendre avant. Pourquoi ? Il faut. Alors, je ne me sens pas une guerrière. Je pense que je suis à leur côté, mais je me sens très petite pour être une guerrière.
Mais vous transmettez le savoir qu'on vous donne. Car quand on voit votre dernier spectacle, avec votre troupe, on a l'impression que c'est eux qui dansent.
Oui, c'est
vrai. Ils dansent pour eux, en plus. Nous sommes là, mais... Mm-hmm. Nous sommes là.
Oui.
Mais c'est eux qui dansent pour célébrer la vie.
Oui. Et je leur ai dit, aux danseurs, aux artistes qui ont créé ces spectacles avec moi, on a une énorme responsabilité. Pourquoi ? On danse à la place de ceux qui ne peuvent pas danser. On parle à la place de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Alors, ce n'est pas seulement danser. On doit porter quelque chose. Et on doit savoir qu'est-ce qu'on porte.
Danser, c'est résister, Lia Rodriguez ?
Je pense que dans ce monde, tout ce qu'on fait, c'est résister. Pas seulement danser.
Alors, on peut penser à l'avenir. Les élections, c'est dans un an.
Oui, ce que je peux dire ici, c'est Lula. C'est les mots qui va dire tout. Pour moi, dans mon perspective, Lula a été un président qui a fait beaucoup de changements au Brésil. J'attends qu'il revienne parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour le moment.
Dernière question, Lia Rodriguez, si je vous dis le mot beauté et que vous fermez les yeux, vous pensez à quoi ?
Je pense à les dessiner de ces Indiens, qu'ils étaient le focus de la dernière Biennale d'art à São Paulo, surtout un artiste qui s'est suicidé, un artiste indigène qui s'est suicidé il y a un mois, qui s'appelle Jade Reisbel, que c'est un travail incroyable. Et quand je ferme les yeux, j'ai ça imprimé dans ma vision, tout ce qu'il a pu dire à partir de ses dessinés.
Merci infiniment, Lia Rodriguez. Je rappelle que vous êtes l'artiste invité du Festival d'automne et qu'on peut voir votre spectacle sublime qui s'appelle Encantado, ces jours-ci à Chaillot, mais ça continue aussi à Paris au 104. Merci infiniment.
Yeah.
Et c'est avec Clara Luciani, Respire encore, que nous allons nous quitter ce soir. Je rappelle que le spectacle de Lia Rodriguez, Encantado, c'est à Chaillot jusqu'à demain, puis au 104 à Paris, du 10 au 14 décembre. Mais il y a aussi un autre spectacle, intitulé Viva Mare, qui commence le 10 jusqu'au 26 décembre, toujours au 104 à Paris. Merci à Benjamin Troncin, qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Merci à Elodie Royer, Céline Villegas, Iris Vertanessian. Et bien sûr à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka Sayas pour son Very Good Trip.